Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdioua et c'est l'heure de l'interview au studio aujourd'hui pour nous parler de l'eau qui coule à nos robinets, mais qui paye quoi ? Ça c'est le thème qui sera abordé lors de cette émission. Et pour cela, nous avons autour de cette table des représentants de municipalités du Haut-Diois et du Diois en somme. Et il s'agit à commencer par Pascal Baudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Bellegarde-en-Diois, vice-président à la CCD au niveau de l'eau, assainissement et rivières. Et puis nous avons ensuite monsieur Charles Messonnier, maire de Val-Maravel.
Bonjour.
Nous avons aussi madame Nadine Monge. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Sainte-Croix.
Oui.
Éric Sicard aussi, adjoint à l'urbanisme à la ville de Die.
Oui, bonjour. Bonjour.
Pour vous, quelle est l'importance de monter cette émission, de proposer cette émission à l'adresse de qui ? Du public, j'imagine, des consommateurs. Mais quel est l'intérêt pour vous de proposer ce sujet, de faire comprendre ce qu'est le prix de l'eau ?
Je crois que ce qui est important au niveau des consommateurs aujourd'hui, c'est de savoir un peu quand il reçoit sa facture, c'est de savoir un peu à quoi ça correspond tous ces chiffres. Donc c'est vraiment insister sur le fait que l'eau en elle-même ne coûte pas, mais ce qui coûte, c'est le service rendu, c'est-à-dire c'est une source ou un captage qui est capté, c'est un réservoir, c'est des tuyaux pour amener l'eau chez chacun, et puis c'est les tuyaux qui repartent des maisons, c'est tout ce qui suit, tout le cycle de l'eau.
Pour cela, plusieurs représentants de divers villages de la Drôme, chacun amènera peut-être aussi l'aspect de cette gestion de l'eau. Est-ce que, justement, aujourd'hui, au niveau de la communauté de communes du Diois, il y a, en quelque sorte, une comptabilité standard de cette gestion de l'eau, ou alors chaque municipalité a sa propre gestion ?
Alors aujourd'hui, chaque commune a sa gestion. Hein. La prise de compétence qui suit la loi NOTRe, c'est-à-dire l'obligation pour les communautés de communes de prendre la compétence eau assainissement en 2026, ça n'est que le 1er janvier 2026. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des communes pour fixer effectivement le tarif et fixer les investissements qui ont lieu dans chaque commune.
Je me tourne vers monsieur Charles Messonnier. Vous êtes maire de Val-Maravel. Comment se gère l'eau ? Quelles sont les installations existantes ? Est-ce qu'il y a lieu de peut-être les améliorer ?
Oui, on a d'ailleurs un gros programme de travaux en ce moment. Donc pour bien situer la chose, Val-Maravel, c'est une commune de 50 habitants. On arrive à tripler la population l'été, ce qui fait qu'on doit avoir des ouvrages qui sont dimensionnés pour accueillir la population estivale. Et pour 70 abonnements, on a 5 captages, 3 réservoirs et 6,5 km de canalisation. Là, on est en train de refaire une station d'épuration au hameau de Fourcinet. Et les travaux vont démarrer pour en construire une nouvelle au hameau du Pilon. Donc c'est un programme à 600 000 euros. On voit que sur 70 abonnés, si on n'avait pas de subvention, ça serait vraiment très difficile. Alors il faudrait multiplier le prix de l'eau par 10.
L'acheminement de l'eau chez le particulier. Chaque commune semble avoir sa gestion propre, ses structures, ses infrastructures particulières, du fait aussi des reliefs. Il y a beaucoup d'embûches, justement, pour remédier à ces situations de gestion.
Ben, on l'a vu, effectivement, chaque commune a une complexité dans son réseau. Hein. On le voit avec la ville de Die, qu'il y a effectivement pas mal de quartiers où il n'y a pas de séparatif, c'est-à-dire que l'eau de pluie et les eaux usées sont mélangées. On le voit avec Val-Maravel, avec un certain nombre de hameaux. On a des exemples, Boulk, Luce-la-Croix-Haute, où il y a beaucoup, beaucoup de hameaux. Donc effectivement, c'est une situation très complexe, un patrimoine très important. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'avec ce patrimoine très important, nous n'avons que 9600 abonnés. Donc quand en début d'émission on parle de prix de l'eau, on a bien effectivement toute cette infrastructure qu'il faut équilibrer, puisque l'eau doit payer l'eau, l'assainissement doit payer l'assainissement. Donc toutes les opérations liées à l'eau, toutes les opérations liées à l'assainissement doivent être financées par le prix de l'eau. Donc on s'aperçoit que l'équation effectivement est difficile à résoudre, mais c'est un peu le défi qu'on a relevé dès 2007, c'est de se dire on part de régie publique communale pour aller vers une régie publique intercommunale et s'arranger pour qu'effectivement demain, en 2026, l'eau paye l'eau, l'assainissement paye l'assainissement. Donc à nous de mettre le bon niveau de prix à ce service, de façon à couvrir les investissements futurs, la masse salariale, puisqu'automatiquement, il y a des gens qui vont travailler dans ce service. Voilà, donc c'est le défi qu'on doit relever.
En quelque sorte, une mutualisation des moyens aussi, pour peut-être égaliser à part égale le coût pour chaque village, ou en proportion.
De toute façon, en 2026, alors ça ne sera pas dès 2026, mais il y aura effectivement la nécessité d'avoir un budget, un prix unique de l'eau. Alors on mettra 3 ou 4 ans à l'obtenir, mais on doit aller, chaque abonné doit payer le même tarif.
Comment se gère l'eau au niveau de Die ?
Oui, ce que je voulais rajouter. Au niveau de Die, la source principale, c'est la source de Raïs, donc à Romeillé. Et il y a aussi un captage également au niveau du pont des Chênes, qui permet d'avoir une sécurité au cas où il y a des problèmes sur la source. Alors à Die, on a une source qui est relativement abondante. Il y a eu de très gros travaux d'investissement, de reprise du réseau au départ et dans différents réservoirs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, beaucoup moins de pertes que c'était auparavant sur l'ensemble du circuit. Puisque ça, sur les réseaux, quand il y a une multiplicité de réseaux, ou une trame de réseaux très importante, les risques de fuite et de pertes sont très importants. Donc ce qui est maintenant une obligation, c'est justement d'arriver à avoir un comptage précis des prélèvements qui sont faits et de la consommation qui est faite. Donc ça, justement, sur d'autres communes, c'est des choses qui continuent à se mettre en place. Sur la ville de Die, c'est en place depuis un certain temps. Et du coup, il y a eu quand même des opérations qui ont permis de rendre beaucoup plus performant le réseau. Bien qu'il y a toujours, vu qu'il y a des... suivant différentes raisons, les terrains sont un peu mouvants. Des fois, il y a des choses qui font qu'il y a des fuites qui viennent sur certains réseaux anciens. Du coup... Ça, notamment en ville, il y a régulièrement des opérations. Dès qu'il y a des opérations de voirie, d'autres éléments qui font qu'il y a un besoin d'intervenir, on en profite pour remplacer des réseaux, pour les rénover, et puis dans certains cas, d'intervenir parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des fuites. Et donc ça, tout cet aspect de surveillance du prélèvement, des abonnements, de savoir exactement quelle est la quantité d'eau qui est prise au départ et qui est distribuée, c'est une des choses sur lesquelles, l'agence de l'eau, les différents services de l'État ont beaucoup mis l'accent et qui est important parce que nous, ça nous permet aussi de savoir ce qui se passe, de mieux pouvoir contrôler et intervenir sur nos réseaux.
Pareil pour vous, Madame Monge, cette gestion, cet acheminement de l'eau, c'est aussi un travail de remise en état.
Moi, je suis un peu mal placée parce que la remise en état, elle a été faite avant. Donc,
mais il n'y a pas de problématique de
actuellement,
de fuite.
Non, on ne doit pas avoir de fuite, puisque Émilie pourrait nous confirmer qu'on a un rendement qui est bon, enfin, plus que bon. Donc, non, on n'a certainement pas de fuite, ou très très peu en tout cas. Et pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude.
Quelle est la source qui alimente Sainte-Croix ?
Dans Sainte-Croix. C'est un captage qui est fait sur la commune de Sainte-Croix. C'est une source qui vient de la commune de Vachère, avant on ne sait pas, qui est relativement abondante, puisque l'été, c'est ce qui reste, c'est dans la Sûre. Donc quand on connaît le débit de la Sûre, on voit qu'il y a quand même de l'eau. Donc le village, enfin la commune, n'a pas de problème d'eau.
Et pour M. Messonnier, pareil, à Valmaravel, il y a plusieurs sources qui vous alimentent.
Oui, on a 5 captages donc, pour alimenter les 3 hameaux. Au niveau de la ressource, on n'a pas, pour l'instant, pas vraiment de problème. Après, si ça continue à baisser d'année en année, on ne sait pas ce que ça sera dans 10 ou 20 ans. Hein, mais...
C'est le cas actuellement. Il y a une baisse de débit des cours d'eau ou des sources qui vous alimentent.
L'été, il y a toujours des baisses de débit, mais oui. Ça reste suffisant pour alimenter la population et les éleveurs.
Et une question que je me pose à vous entendre, il y a une captation donc faite sur un cours d'eau. Comment se quantifie justement cette quantité et ce qui vous permet ensuite de mesurer un peu la proportion qui en est distribuée en finale et aussi de déterminer les pertes. Comment s'opère cette opération de captation? À quel moment l'eau est-elle quantifiée?
Alors c'était un gros sujet 2016, hein, puisque effectivement on avait des conflits avec l'agence de l'eau, puisqu'il n'y avait effectivement pas de compteur, on était sur de l'estimatif. Donc il a fallu effectivement s'équiper de compteurs. Donc le principe aujourd'hui, ce qui est acquis avec l'agence de l'eau, avec les services de l'État, c'est d'avoir tous les réservoirs d'eau qui sont équipés de compteurs sortis de réservoirs. Il y a juste l'exception de Luc, parce qu'il y a un très grand linéaire entre la source et le réservoir. Mais sinon, pour toutes les autres communes, c'est un compteur sorti de réservoir. Et puis l'obligation, c'est d'avoir des compteurs abonnés, donc chez chaque adhérent. Et le principe, c'est d'additionner les compteurs abonnés, regarder ce qui est sorti du réservoir. Et puis quand on fait un calcul de rendement, effectivement, une fois par an, c'est de se dire, il est sorti tant de mètres cubes du réservoir, on a distribué chez les personnes tant de mètres cubes, voir s'il y a un différentiel entre les deux.
Il y a une autre idée aussi, c'est les personnes ou des propriétaires qui possèdent une source propre. Est-ce qu'elles sont obligées malgré tout d'être dans ce circuit de distribution de l'eau ou alors elles peuvent être en autonomie?
On a effectivement plusieurs cas de figure. Alors, d'abord, toutes les communes n'ont pas une distribution sur la totalité de la commune. Il y a effectivement des maisons qui sont hors du schéma de distribution d'eau potable parce qu'elles ont leurs propres ressources. Et à l'intérieur du périmètre de distribution d'eau potable, on peut très bien avoir des gens qui utilisent soit de la récupération d'eau, soit des sources privées. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de comptage de ces ressources. Je ne suis pas certain que dans l'avenir, les choses ne changent pas, puisqu'aujourd'hui, au niveau du bassin versant de la Drôme, on s'intéresse à tout le quantitatif eau, c'est-à-dire puits, forages, etc., sur tout le périmètre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de comptage obligatoire pour des gens qui ont une source privée. Je ne suis pas sûr que demain, on soit dans le même cas de figure.
Alors, il y a cette proposition, cette question, l'eau paye l'eau. En point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut pouvoir signifier? Qu'est-ce que ça introduit dans la réflexion auprès des usagers de l'eau?
Ce que ça entraîne déjà, c'est suite à l'analyse financière qu'on a fait tout cet hiver, c'est qu'on s'aperçoit qu'au niveau global, communauté de communes, on a déjà un déficit de 300 000 euros sur toute l'analyse des communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seule la ville de Die a le devoir d'équilibrer son budget eau et d'équilibrer son budget assainissement. Toutes les autres communes peuvent faire appel au budget général de la commune pour équilibrer son budget eau et assainissement. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de communes qui équilibrent leur budget eau et assainissement en puisant dans le budget général. Chose que demain, la communauté de communes ne pourra pas faire. C'est-à-dire que nous, on sera effectivement dans l'obligation d'équilibrer notre service. Et quand on parle aujourd'hui de première analyse où on pointe 300 000 euros de déficit, il faudra que le prix de l'eau bouche ce déficit.
Et tout simplement, ça veut dire que les recettes doivent être équivalentes aux dépenses, enfin, combler les dépenses, et que les recettes, bah, c'est, comment dire, c'est les abonnements et la consommation. C'est les particuliers, voire les particuliers et les entreprises, et enfin voilà, c'est les consommateurs. Y compris d'ailleurs les bâtiments collectifs.
Mais une commune qui puise dans son budget général, c'est même le consommateur qui paye, parce que de toute façon, le budget général, c'est entre autres les impôts locaux. Donc voilà, c'est toujours le consommateur qui paye.
Ça semble être un sujet très complexe, cette gestion de l'eau. Et il y a des particularités multipliées par 50 dans le Diois.
Ce qui est très complexe, c'est qu'il y a des communes qui jusqu'à présent ne faisaient pas payer au mètre cube des gens qui étaient au forfait. Il y a 15-20 ans, c'était encore pire que ça, mais aujourd'hui, il reste quelques communes qui sont encore au forfait. Et du coup, le fait de payer, ben, ça, on change effectivement des habitudes. Il y a des gens qui vont passer d'un petit forfait à des sommes un peu plus conséquentes, encore une fois, nécessaires pour l'équilibre de ce budget.
Si je comprends bien, l'eau qui est captée doit-elle être rendue à la nature au plus près après traitement ? Ça, c'est un enjeu aussi qui est donné ?
Déjà, je dirais, l'enjeu, c'est de ne pas capter plus que ce qui est nécessaire aux besoins, donc, et de laisser au milieu naturel, au départ, la quantité non prélevée. Donc, parce que c'est là, du coup, ces problèmes de rendement dont on parlait, qui là, comment dire, permettent aussi de laisser suffisamment au milieu naturel. Du coup, il y a une partie de la question qui m'a échappé, désolé.
C'est le retour de l'eau dans la nature après traitement.
Oui, voilà. Donc ça, après traitement, bah, comme Pascal Baudin l'expliquait, après traitement, là, je dirais que c'est surtout la qualité de l'eau qui est surveillée. Puisque la quantité, c'est la quantité circulante, donc celle qui a été mesurée dans son débit de consommation et d'arrivée d'eau. Donc là, c'est la qualité de l'eau, y compris d'ailleurs en sortie de station d'épuration, mais y compris aussi au niveau des eaux de baignade, puisque là, on a des contrôles au niveau des eaux de baignade qui font que ça peut révéler parfois justement des présences de bactéries, enfin, oui, qui révèlent justement des problèmes qui peuvent venir des réseaux d'assainissement. Puisque alors, il y a le réseau d'assainissement collectif et on a aussi des réseaux de l'assainissement non collectif, l'assainissement individuel, qui là aussi est surveillé, réglementé. Mais justement, là, tout ce souci de la qualité de l'eau à la sortie est surveillé régulièrement et notamment par des prélèvements en rivière. Voilà.
La tarification de cette eau est gérée par la loi qui impose quels principes, par exemple, pour le Diois ?
Eh bien, la loi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau paye l'eau. Alors, la nécessité de l'équilibre, elle est pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc, nous, dans le Diois, c'est uniquement la ville de Die. Pour les autres communes, effectivement, le calcul, souvent, il est fait avec l'appel au budget général. Donc, là, on a effectivement, cette difficulté pour 2026, c'est que ce service s'auto-équilibre. C'est-à-dire que ça sera uniquement l'eau qui devra payer ce service.
Donc on peut s'attendre à une augmentation du tarif de l'eau ?
Pour certaines communes, effectivement, ça va se traduire par une augmentation. À partir du moment où elles faisaient appel à leur budget général pour équilibrer, il n'y a pas de mystère, il y aura effectivement une augmentation pour bon nombre de communes. Il y a un niveau de tarification qui semble être à première vue acceptable. Là, c'est un peu le travail qu'on va faire dans les mois qui viennent, de façon à vraiment rechercher tous les coûts liés à l'eau, parce que souvent dans les communes, on s'aperçoit que la secrétaire de mairie elle passe du temps à l'eau, mais c'est pas facturé au service d'eau. Il peut y avoir un employé communal qui fait du travail et puis c'est pas forcément facturé à l'eau. Il y a ces nouveaux investissements qui ont été faits, donc il y a des emprunts qui sont en cours, il y a des emprunts qui sont à venir. C'est toute cette somme d'argent qu'il va falloir quantifier et puis vraiment travailler au réel des opérations.
Madame Monge ou Monsieur Messonnier, pareil, hein, je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a une réflexion sur cet aspect de tarification au sein de votre village ?
Ben, chez nous, oui, je dirais, ça fait 10 ans qu'on s'est mis à augmenter les prix assez sensiblement tous les ans, au moins 3% par an. Et certaines années, c'est allé jusqu'à 5 ou 10, parce qu'on se rendait compte qu'on avait une grosse mise à niveau à faire, qu'on allait avoir un gros programme de travaux à réaliser, et que pour financer ça, il allait falloir augmenter considérablement. On ne voulait pas se retrouver dans une situation où on allait être obligé de doubler le prix d'une année sur l'autre, ce que les usagers n'auraient pas forcément bien compris. Donc on a anticipé et on a remis nos prix à niveau depuis, oui, 10 ans.
Madame Monge, pareil aussi, vous avez cette possibilité d'anticiper peut-être les augmentations de tarifs ?
Nous, le conseil municipal précédent avait déjà anticipé. Et on est au même tarif de l'eau et de l'assainissement depuis 2015, en gros. Et donc, Pascal pourra vous dire, on est un des plus chers de la communauté des communes. Mais c'est aussi parce qu'on a fait beaucoup d'investissements.
Pour Di, également ?
Pour Di, comment cette année, on a décidé, enfin, on a eu besoin d'augmenter les tarifs, qui n'avaient pas été augmentés ces dernières années, parce que suite aussi aux années Covid, enfin, voilà, il y avait eu des... Je veux dire, on n'a pas souhaité faire une... Certaines années, on n'a pas souhaité faire une augmentation. Là, on va de nouveau vers une augmentation cette année, mais ça parce que les besoins en investissement, en fonctionnement du service l'imposent. Après, avec aussi... il y a eu une baisse de la consommation sur la ville, aussi liée à la consommation des équipements publics, parce qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits sur les équipements publics, notamment sur les fontaines, sur certaines les toilettes de Mérose, par exemple. Donc il y avait des postes qui consommaient beaucoup, qui ont été réduits. Donc du coup, et puis une réduction quand même de la consommation des ménages. Donc finalement... une quantité composée moindre, donc je dirais
consommer moins pour payer moins.
Ben, c'est pas exactement ça, justement, parce que finalement, forcément, quand on consomme moins, en moins de mètres cubes, ça va coûter moins cher. Par contre, le coût global du service, lui, reste le même, parce que les investissements continuent à être nécessaires. Parce que l'entretien du service, le service lui-même avec les gens, les salariés qui y travaillent, ça a un coût, je dirais, qui est équivalent, même si la consommation baisse. La consommation, l'année dernière, on a constaté qu'elle avait baissé environ de 5%. Mais l'investissement, l'entretien, le coût du service lui-même, lui, reste constant.
On a deux problèmes vis-à-vis de ça. Effectivement, un petit peu comme les ordures ménagères, le tonnage baisse et pourtant on paye nos ordures toujours le même prix, voire un peu plus cher, parce qu'effectivement, il faut rentabiliser l'installation. Au niveau de l'eau, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on va effectivement demander aux gens de faire des économies, mais avec ces économies, il va y avoir moins de mètres cubes consommés. Donc on va être obligé d'augmenter le prix du mètre cube parce qu'effectivement, on a des charges fixes. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a des gros taux de résidence secondaire. Donc qui dit résidence secondaire dit des fois des faibles consommations, puisqu'il y a des gens qui sont là juste un mois par an. Mais ces gens-là, on a bien dimensionné ces services avec une population maximum. C'est-à-dire quand on fait une station d'épuration, par exemple, dans un village, on ne le fait pas pour les 30 habitants permanents, on le fait pour les 200, 250 habitants qui, à un moment donné, sont présents sur la commune. Donc l'investissement, il est fait aussi pour ces gens-là. Donc il faut qu'on trouve un moyen de faire payer ces personnes-là qui sont peu présentes. Donc c'est pas simple à monter, tout ce tarif-là. C'est le travail qu'on a attaqué de faire il y a quelques mois. Et on devra rendre notre copie à la fin de l'année, début d'année prochaine.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5, 101.7, FM.
Cette gestion de l'eau nécessite donc son transport également. On peut le rappeler, il y a 500 km de canalisation dans le Diois, 122 stations de captage, 110 réservoirs, 58 stations de traitement de l'eau, et tout ça pour 9600 habitants ou abonnés dans le Diois. Cette réfection, cette amélioration de cette distribution de l'eau vous est proposée aussi. Est-ce qu'il y a des recettes ou est-ce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées justement dans cette réfection de l'infrastructure de l'eau, ou alors est-ce que chaque village ou l'intercommunalité a son propre maître d'ouvrage?
Non, nous, les entreprises locales savent très bien faire. On a un tissu local qui est très compétent dans tous ces domaines-là. Et vu l'étalement des investissements, les entreprises locales sont tout à fait amènes à travailler sur les travaux nécessaires pour l'entretien, pour l'investissement. Choses comme ça. Alors, nous, au niveau de la communauté de communes, on ne va pas se doter d'une entreprise. Nous, on va faire, comme aujourd'hui fait la ville de Die, des petites réparations, des choses comme ça. Mais après, l'idée est bien de faire appel aux entreprises locales. Donc, on déterminera des secteurs, on verra des choses comme ça. Mais on a tout ce qu'il faut à domicile.
Le matériel utilisé pour le transport de l'eau, est-ce qu'il exige aussi une certaine norme dans son utilisation?
Ah ben oui, s'il y avait de l'eau potable à transporter par véhicule, effectivement, il y a des normes bien précises à faire avec ça. Mais la réflexion, elle a lieu aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire monter en cas de pépin, de coupure, de rupture d'eau sur une commune, c'est bien de monter dans l'avenir un service qui puisse répondre à toutes ces problématiques.
Oui, tu parlais du matériel. Sur la ville de Die, on continue à remplacer des canalisations en plomb. Et là, parce qu'effectivement, je veux dire, il y a des périodes où ça a été mis en place de cette façon-là. Et là, à chaque fois qu'on a l'occasion d'intervenir, on remplace ce type de canalisation par d'autres matériaux non toxiques.
Madame Monge, justement, pour Sainte-Croix, existe-t-il ce réseau nécessite parfois des réfections? Est-ce que c'est supportable pour une municipalité, parfois?
Ben, on a fait les dernières réparations il y a 2 ans. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réparation en vue, sauf catastrophe, mais on va bien espérer qu'il n'y en a pas. Après, nous, on a un budget de l'eau qui s'équilibre largement. Merci aux prédécesseurs qui avaient fixé des tarifs. Et honnêtement, pour l'instant, on n'a pas de gros soucis.
Pareil pour Val-Maravel. C'est un village de 70 habitants que vous disiez tout à l'heure.
On est 50 résidents permanents. Il y a 70 abonnés à l'eau potable. En été, on doit être entre 150 et 200, en comptant les résidents secondaires.
Il y a aussi l'aspect touristique en été, principalement, avec cet apport de population et donc une consommation plus accrue de l'eau. Est-ce qu'il y a aussi une considération de ce tourisme qui serait amené à peut-être payer sa part aussi de cette gestion de l'eau?
Le touriste, il paye sa part. Quand le touriste arrive dans un meublé, dans un gîte, dans un camping, il paye sa part. Ce qui est important, c'est qu'il paye sa juste part. C'est pour ça que dans l'évolution du tarif, sur une facture, il y a une part fixe, il y a une part variable. La part fixe, c'est ce qu'on appelle l'abonnement. La part variable, c'est ce qui correspond au nombre de mètres cubes affichés par le compteur. Donc, la manière de faire payer un touriste, c'est effectivement d'ajuster la part fixe de façon à ce que, quelle que soit la consommation, il y ait de toute façon une certaine part qui arrive à la communauté de communes. Et si le touriste, ben, il est dans un camping, il va payer effectivement une redevance eau comme n'importe quel citoyen. Donc à voir combien on met de parts fixes sur un camping, ça c'est à définir dans les mois qui viennent. Mais il y a tout ce travail de façon à ce que chacun participe à son niveau.
Et cet accès à l'eau, peut-être dans le Haut-d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a des campings qui accueillent l'été en général. Et est-ce qu'il y a suffisamment d'eau? Je ne sais pas si on peut rapprocher ça avec ce qui s'est passé à Espenel, avec cette pénurie d'eau parfois. Est-ce qu'il y a des incidences justement dans les campings parfois, ou à craindre?
Ça va être le travail du PLUI, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement les campings, campings ou pas campings, c'est notamment l'urbanisme de demain qui va être effectivement lié au quantitatif eau disponible. Moi, si je prends le cas de Bellegarde-en-Diois, j'ai un hameau sur la commune avec une très faible production d'eau en été, puisque je descends à 3,5 litres, 4 litres minute. Pour 37 maisons, bah, c'est évident que sur ce quartier, si quelqu'un me demande d'installer un camping, la réponse est vite trouvée. Et même au niveau d'une construction neuve, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de délivrer un permis de construire parce que je sais que je suis juste. Donc le PLUI, aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est bien de coller... face à une demande d'urbanisation, c'est de savoir quelle est la capacité à donner de l'eau, à récupérer cette eau, à traiter cette eau. C'est vraiment les enjeux de demain.
Pour ce qui est Madame Monge, pareil aussi, est-ce qu'il y a un apport ou peut-être une fréquentation plus importante l'été? Est-ce qu'il y a une incidence sur cette gestion de l'eau?
À part le monastère de Sainte-Croix qui est quasiment plein tout l'été, il n'y a pas de grosse différence. On a quelques résidences secondaires, mais les gens viennent plus ou moins tout au long de l'année. Il y a quelques locations d'été, mais je ne suis pas sûre que c'est ce qui modifie beaucoup la consommation. C'est surtout la présence du monastère. Et notre station d'épuration a dû être dimensionnée en rapport de cette station, de la capacité du monastère. Même si ce n'est pas toute l'année.
Pareil pour M. Messonnier.
Oui, quand la population estivale triple, c'est là qu'il y a le plus de consommation et c'est là qu'il y a le moins de ressources aussi, en général.
Est-ce que, justement, cette consommation pourrait être stockée également en prévision de ces saisons?
Ça fait partie des pistes envisagées. On parle de stockage dans le milieu agricole. On pourrait très bien imaginer du stockage d'eau potable, alors sous différentes formes, hein, mais ça fait partie des pistes, comme est évoqué la réutilisation d'eau usée. Alors là, pour l'instant, dans le domaine agricole, mais je vois pas pourquoi la technologie de demain nous interdirait d'utiliser peut-être la. Il y a bien les Parisiens qui boivent l'eau de la Seine. On peut très bien imaginer tout un tas de solutions face à ça.
Je veux dire que globalement, on voit bien que la ressource en eau, en termes de pluviométrie, a tendance à baisser ou être, sur des périodes plus restreintes, même si cette année, l'hiver 2023-2024 était plutôt abondant. La tendance générale, elle est évidemment de ce côté-là, même si on ne peut pas vraiment la mesurer. Hein, donc c'est aussi un vrai souci. C'est pour ça que je dirais que à ce niveau-là, on l'a déjà évoqué, mais le fait d'avoir une bonne maîtrise des réseaux est très important, parce que, justement, cette ressource en eau, elle est précieuse, elle a tendance, ou elle risque d'avoir tendance à être moins abondante, donc il est vraiment important de l'utiliser d'une façon équilibrée, juste, et pas au-delà des besoins. Alors après, sur les saisons touristiques, oui, effectivement, il y a plus de monde, les campings, enfin toute l'activité de centres touristiques. Là aussi, pour l'instant, heureusement, je dirais, on n'a pas de soucis majeurs, mais c'est aussi une sorte de surveillance, ou comme le disait Pascal, aussi dans des perspectives de ne pas augmenter la capacité, ou même en tireur logement, etc., ou suivant des quartiers, parce que justement, pour ne pas se retrouver en pénurie ou avec un souci d'insuffisance de ressources en eau. Ouais.
Alors, Eric a raison, il a effectivement beaucoup plu et on s'en aperçoit tous ces jours-ci. Par contre, ce qu'on n'a pas eu, c'est de neige. On a eu très peu de neige et les fois où on a eu de la neige, elle a rapidement fondu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la neige, c'est initialement quelque chose qui fondait au mois d'avril-mai. Et que voilà, on perd une réserve qui était non négligeable, qui était la neige. Donc ça, c'est un gros problème parce que l'eau de pluie, quelques heures après, elle se retrouve en Méditerranée. Et la neige, c'était vraiment un amortisseur au niveau de nos réserves d'eau.
Vous avez argumenté avec le témoignage de Joël Weillard, maire d'Oslon. Est-ce qu'on peut résumer cet argumentaire que vous mettez en avant sur ce prix de l'eau ?
Oh ben la situation d'Oslon, c'est parce qu'on voulait faire un petit zoom sur des situations un petit peu particulières. La commune d'Oslon, c'est une commune d'altitude. Sa ressource en eau, c'est la Roanne. Donc c'est une source qui se situe de mémoire comme ça, 300, 400 mètres plus bas. C'est un petit peu comme l'Esch, hein. C'est-à-dire que c'est des communes qui ont des sources sur place qui sont inexistantes ou devenues inexistantes et le besoin de trouver une ressource ailleurs. Et souvent, on s'aperçoit que pour Oslon, on s'aperçoit que c'est quand même une ressource éloignée, une ressource coûteuse parce que le coût d'électricité fait que faut quand même remonter l'eau à Oslon et que quand on voit le nombre d'habitants qu'il y a, on se dit qu'effectivement, dans notre prix de l'eau de demain, c'est des choses qu'il faut en tenir compte.
Il y a aussi, dans les arguments que vous proposez, comprendre sa facture d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à formuler auprès des consommateurs ou des usagers de l'eau ?
La facture d'eau, c'est justement rappeler aux gens que, je l'ai dit tout à l'heure, l'eau paye l'eau. Donc il faut vraiment savoir l'éplucher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'eau, il y a une part fixe, il y a une part variable, donc le nombre de mètres cubes consommés, et puis il y a des taxes. Il y a des taxes qu'effectivement les collectivités perçoivent, mais que ces collectivités redonnent. C'est-à-dire que ça, c'est des taxes qui servent à l'agence de l'eau, et ces taxes au niveau de l'agence de l'eau permettent effectivement de faire des investissements. Les 9 millions d'euros de travaux qui ont été faits dans le Diois, il y a soit 80% de subventions pour les communes. Ces subventions, elles viennent de l'agence de l'eau, elles viennent du département, elles viennent des services de l'État. Donc à un moment donné, il faut alimenter tout ça. Donc c'est les redevances que les gens payent.
Oui, non, parce qu'on... On évoquait le tarif de l'eau, donc c'est vrai que des questionnements, puisque c'est un travail qui est en cours actuellement entre au niveau de la communauté de communes et les différentes communes, c'est justement d'essayer de trouver quelque chose qui soit juste, qui corresponde, qui équilibre, et qui soit pas pénalisant pour le consommateur, enfin le moins possible. Et il y a cette réflexion justement entre la part fixe, l'abonnement, et la part de consommation. Puisque avec plusieurs options, parce qu'il peut y avoir des tarifs progressifs. Là, après, on se rend compte où on va quand même plutôt vers une augmentation relative de la part fixe, puisque, elle est plus stable, plus fiable, notamment aussi par rapport à l'aspect saisonnier dont on parlait tout à l'heure, des résidences secondaires, etc. Mais pour l'instant, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a tout un travail qui se fait en commission avec les différentes communes pour arriver à trouver quelque chose qui soit cohérent et qui soit le plus juste possible pour chaque citoyen.
Je crois que c'est important, et Eric a raison de parler de cette commission. Oui. En 2026, on va attaquer ce service au niveau de l'intercommunalité. Ce service, il sera peut-être pas des plus parfaits. Il va falloir qu'il démarre. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une commission la plus étoffée possible. Ce qu'on veut, c'est que les communes restent quand même un peu partie prenante de toute cette histoire. Et la manière de rester partie prenante de cette histoire, c'est bien que cette commission, qui regroupe des élus des communes et peut-être demain des citoyens à cette commission aussi, des sièges réservés aux citoyens, et ben cette commission elle soit active de façon à ce que ce service, on puisse l'améliorer, parce qu'il y aura certainement des pistes d'amélioration, la mensualisation, il y a tout un tas de pistes qui doivent être évoquées et qu'on se doit de mettre en place au fur et à mesure. L'idée, quand on défend un service public, c'est bien que ce service il soit au service du public, non pas une délégation de service public avec un Veolia ou un Suez qui soit là. C'est bien l'idée de faire vivre quelque chose au service du citoyen. Donc le citoyen, à un moment donné, il y a les choses qui vont être possibles de mettre en place, et puis des choses qui sont certainement plus difficiles. Mais l'idée est bien de travailler sur un service au service des gens, et que ce service, on le souhaite performant.
Monsieur Messonnier, est-ce que vous avez aussi un souhait sur cette gestion de l'eau, ou tout va bien ?
Je ne sais pas si on peut dire que tout va bien. Je pense que déjà, il y a quelque chose dont on s'est rendu compte dans les travaux avec la commission, c'est que le transfert de compétences à la communauté de communes, il va faire monter le prix. Il va faire monter le prix pour un service qui sera peut-être légèrement plus performant que ce que faisaient les communes, mais il va y avoir des augmentations de prix mécaniques parce qu'il faudra recruter du personnel. Parce qu'aujourd'hui, les services des communes, surtout dans les petites communes, fonctionnent beaucoup au bénévolat. Et que ça, c'est pas du tout gagné que ça continue demain, quand ça sera la communauté de communes. À la commission, on cherche à préparer le transfert. Mais depuis le début, on est opposé au transfert. On le prépare pour que ça se passe le mieux possible, dans la mesure où c'est obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est un souhait de notre part que l'eau soit gérée à l'échelle intercommunale.
Et ça, c'est une idée qui est... De quelle proportion, sur le DIWA, cette réticence de certaines communes à cette globalisation, en quelque sorte ?
C'était l'unanimité, hein. Dans les premières discussions, effectivement, on avait clairement affiché une opposition à cette loi. Mais contrairement à pas mal d'autres communes, on avait fait une proposition. C'est-à-dire, c'est un peu la lettre au président qu'on avait fait l'été dernier. Donc c'était de fonctionner de façon mutualisée. C'est un peu le travail qu'on fait depuis 2016. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement... Il y a un objectif dans le cycle de l'eau, petit cycle de l'eau. On avait effectivement une animatrice qui était là pour toutes nos actions qu'on menait. Et il y avait bien des objectifs sans passer effectivement par un service, une compétence communauté de communes. Mais effectivement, fonctionner plus en mutualisation de moyens, des choses comme ça.
Oui, ce qui veut dire que...
Je pense que c'est bon d'ajouter que non seulement les communes ne sont pas favorables au transfert, mais la communauté de communes n'y est pas favorable non plus, parce que ça va être une usine à gaz.
Et vous, Madame Monge, quel regard avez-vous sur cette passation de compétences ?
La même que mes collègues, hein, de toute façon. Moi, je ne fais pas partie de la commission eau, mais je suis quand même un peu ce qui s'y passe. Et c'est vrai que... Alors nous, je ne sais pas si au niveau de notre commune, on va avoir une augmentation de tarifs encore. Mais oui, j'ai bien conscience qu'il y a plein de communes, dont le DIWA, qui payent leur eau pas très cher et qui vont devoir avoir de sérieuses augmentations.
Je suis pas toujours sûr hein, que ça soit pour toutes les communes une augmentation de prix. Hein. Il y a effectivement le travail est pas fini, donc moi j'ose espérer qu'on sera dans des tarifs abordables, même si le terme abordable ça veut pas dire grand chose. Mais je pense pas que des communes qui soient en haut de la tarification soit obligé d'aller encore plus haut. Ça m'étonnerait quand même un petit peu.
J'espère.
Oui, sur ce transfert de compétences donc obligatoire, effectivement, il y a eu des réticences, des oppositions. Après, c'est vrai que le parti pris, justement, de le préparer, va aussi, je dirais, plus vers une forme de partage de compétences et de mutualisation qui, alors, oui, ça peut alourdir par certains côtés, mais il y a aussi une mutualisation de services qui peut être tout à fait fonctionner, donner des moyens supplémentaires, des moyens d'appui, d'ingénierie sur des communes qui, pour gérer leurs services. Et du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver un mode de faire qui continue à s'appuyer aussi sur des relais locaux des communes et voilà, qui se maille de façon intelligente, je dirais, avec ce nouveau service.
Et puis on parle des fois du, effectivement, bénévolat, les avantages du bénévolat, il y a aussi les limites du bénévolat. Moi je vois effectivement sur la commune, on a l'obligation par exemple de nettoyer son réservoir une fois par an. Nous à Bellegarde, ben je reconnais qu'effectivement on nettoie pas le réservoir une fois par an. Donc c'est ce que j'appelle les limites du bénévolat, c'est-à-dire qu'il y a une obligation légale. Et ben, on saute des fois quelques années parce qu'on juge qu'il n'est pas si sale que ça. Mais la loi ne dit pas ça.
Un sujet de transition, hein, en transition, on peut dire, pour l'instant, avec cette passation en cours. L'émission touche à sa fin. Je crois qu'on reviendra une prochaine émission sur ces aspects de l'eau, sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Et en tout cas, je vous remercie Éric Sicard, Madame Nadine Monge, Monsieur Charles Messonnier et Monsieur Pascal Baudin d'être venus sur Air du Bois pour nous parler de cette gestion de l'eau. Toutes ces informations, on peut également les trouver sur le site de l'intercommunalité du Diois.
Tout à fait.
Et pour ce qui est de la ville de Die, qui est quand même une grande ville dans le Diois, est-ce qu'il y a des informations aussi à trouver ?
Tout à fait, des informations qui sont disponibles sur le site de la mairie. En tout cas, une fois par an, il y a un rapport d'activité du service de l'eau, du service de l'assainissement.
Merci à tous et bonne soirée.
okay? You want to try it again?